Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'humour noir est une forme d'humour qui souligne l'absurdité du monde, son non-sens absolu. En 1939, André Breton écrivait « L'humour noir est borné par trop de choses telles que la bêtise, l'ironie sceptique, la plaisanterie sans gravité. L'énumération serait longue, mais il est par excellence l'ennemi mortel de la sentimentalité. » L'anthologie de l'humour noir, pensée et établie par André Breton, fut publiée pour la première fois en 1940 et immédiatement censurée par Vichy. Et la version définitive a été éditée en 1966 par Jean-Jacques Pauvert. On trouve dans cette anthologie des textes de Fourier, Lassner, Edgar Poe, Baudelaire, Lewis Carroll, Villiers de l'Isle-Adam, Nietzsche, Lautréamont ou encore Arthur Rimbaud. Mais en 1950, Breton avait déjà revu et remanié son anthologie de l'humour noir. C'est à cette occasion que fut enregistrée l'émission que nous allons entendre.
Le journal parlé présente des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Au cours de cette émission, vous entendrez le poète Benjamin Perret, dont le grand jeu, le feu central, le déshonneur des poètes, sont bien connus des amateurs de surréalisme. Le philosophe Aimé Patry et Claudine Chonnaise qui vous parleront de l'humour noir.
Claudine Chonnaise, Benjamin Perret, Aimé Patry sont ici ce soir pour vous dire ce qu'ils pensent de l'humour noir. Pourquoi l'humour noir ? Parce qu'André Breton vient de donner une nouvelle édition de son anthologie de l'humour noir. Et pour poser quelques jalons préliminaires, nous allons relire ensemble le début de l'introduction d'André Breton à cette anthologie. Pour qu'il y ait comique, c'est-à-dire émanation, explosion, dégagement de comique, dit Baudelaire, il faut... Émanation, explosion, il est frappant de trouver les deux mêmes mots associés chez Rimbaud, et cela au cœur d'un poème, on ne peut plus prodigue d'humour noir. Il s'agit en effet du dernier poème qu'on ait de lui, où l'expression bouffonne et égarée au possible ressurgit, condensée à l'extrême, suprême, des efforts qui ont eu pour but son affirmation, puis sa négation. Rêve. On a faim dans la chambrée, c'est vrai. Émanation, explosion. Un génie, je suis le gruère. Rencontre, réminiscence involontaire, citation. Il faudrait, pour en trancher, qu'on eût poussé assez loin l'exégèse de ce poème, le plus difficile de la langue française, mais cette exégèse n'est pas même entreprise. Une telle coïncidence verbale n'en est pas moins déjà significative. Elle révèle, chez les deux poètes, une même préoccupation des conditions, pour ainsi dire, atmosphériques, dans lesquelles peut s'opérer entre les hommes le mystérieux échange du plaisir humoristique. Échange auquel, depuis un siècle et demi, s'est trouvé attaché un prix croissant qui tente à en faire aujourd'hui le principe du seul commerce intellectuel de haut luxe. Il est de moins en moins certain, vu les exigences spécifiques de la sensibilité moderne, que les œuvres poétiques, artistiques, scientifiques, les systèmes philosophiques et sociaux dépourvus de cette sorte d'humour ne laissent pas gravement à désirer, ne soient pas condamnés plus ou moins rapidement à périr. Il s'agit ici d'une valeur, non seulement ascendante entre toutes, mais encore capable de se soumettre toutes les autres jusqu'à faire que bon nombre d'entre elles cessent universellement d'être cotées. Nous touchons à un sujet brûlant. Nous avançons en pleine terre de feu. Nous avons alternativement tout le vent de la passion pour et contre nous, dès que nous pensons à lever le voile sur cet humour, dont pourtant nous parvenons à isoler dans la littérature, dans l'art, dans la vie, avec une satisfaction unique, les produits manifestes. Et Breton poursuit en rappelant que Paul Valéry, à une enquête conduite par la revue Aventure, avait répondu qu'il ne pouvait pas définir le mot « humour ». Breton, cependant, un peu plus loin, semble accepter comme définition provisoire celle-ci qui est empruntée à Léon Pierquin. L'humour est comme une manière d'affirmer, par-delà la révolte absolue de l'adolescence et la révolte intérieure de l'âge adulte, une révolte supérieure de l'esprit. Eh bien, Claudine Chonnaz, Benjamin Perret, Aimé Patry, voici donc posée, si j'ose dire, la base de la discussion que vous allez mener ce soir, et je voudrais que l'un d'entre vous commençât aussitôt à entrer dans le sujet. Patry, peut-être ?
Je me demande si on ne pourrait pas opposer l'humour noir, tel que le comprend Breton, au rire amer des romantiques français, celui que l'autre Amont appelait le gandin sans chemise intellectuelle, je veux dire Musset, a évoqué cette mâle gaieté si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Eh bien non, ce n'est pas cela, à mon sens, l'humour noir. Il me semble même que c'est tout le contraire. Le rire amer des romantiques français, c'est le comique sur un fond de tragique. L'humour noir, dont la définition s'inspire plutôt du romantisme allemand que du romantisme français, c'est, à mon sens, plutôt tout le contraire. C'est le comique sous une surface de pathétique apparent. Tandis que le romantique français cherchait à nous faire comprendre que la réalité est infiniment plus sérieuse que nous saurions le penser, qu'il faut découvrir le tragique de la réalité même derrière les apparences comiques, c'est le contraire, à mon sens, dans l'humour noir. Il s'agit de découvrir, au contraire, le peu de sérieux de l'ensemble des choses auxquelles nous en attachons trop. Et c'est par là que se manifeste cette révolte supérieure de l'esprit, qui s'estime supérieure à toute réalité donnée, dont parle Léon Pierquin, en fonction d'ailleurs de la définition de l'ironie romantique par Hegel, que cite plus loin Breton.
Devons-nous comprendre, Patry, que la première opération de l'humour noir consiste à dénaturer ce qu'on entend normalement par le tragique, à le nier en quelque sorte, et à montrer que ce tragique est une sorte de mystification dont le contenu réel est digne d'être moqué, ridiculisé. Est-ce cela ?
Pas tout à fait.
Benjamin Perret, peut-être.
Je voudrais d'abord faire remarquer à Patry qu'il n'y a pas opposition entre les romantiques et l'humour noir, mais il y a quelque chose d'essence tout à fait différente. Si chez les romantiques, l'humour noir et le tragique se trouvent en quelque sorte plaqués l'un sur l'autre, l'humour et le tragique, et non pas l'humour noir, se trouvent plaqués l'un sur l'autre, dans l'humour noir, il y a fusion du tragique et de l'humour.
Claudine Chonnaz ?
Mais moi, je voudrais répondre à quelque chose qu'a dit Aimé Patry tout à
Mais
l'heure.
Je vous en prie.
Qui me semble intéressant, c'est qu'il a l'air d'opposer, n'est-ce pas, le tragique et la mystification. Il dit, un beau jour, on s'aperçoit que le tragique n'existe pas, qu'en réalité, c'est une mystification. Ce qui me paraît précisément le propre de l'humour noir, c'est l'identification du tragique avec la mystification. Ce qui est précisément tragique dans la vie, selon l'humour noir, c'est qu'elle soit une mystification.
Patrick, si que répondez-vous
voulais,
à cela ?
Si je voulais exprimer mon idée, je prendrais le contre-pied de la formule de Musset. Je dirais que l'essence de l'humour noir, c'est lorsqu'on vient d'en pleurer, on s'aperçoit qu'au contraire, la dignité supérieure de l'esprit obligerait à en rire, et particulièrement de rire de soi-même lorsqu'il s'agit des malheurs qui vous sont arrivés personnellement.
Je crois qu'on pourrait prendre un petit exemple tout à fait récent qui permettrait de situer un petit peu mieux le débat. Il y a eu très récemment un film, La vie commence demain. Dans ce film, on nous propose Jean Rostand, plus exactement, nous propose la création de sous-hommes, qui seraient des esclaves des hommes. Ça se place exactement à l'inverse de Nietzsche, qui, lui, voulait créer des surhommes. Chez Rostand, il y a une espèce de romantisme de très basse qualité, tandis que chez Nietzsche, il y a déjà un commencement, quelque chose qui a touché à l'humour noir.
J'avoue que je ne suis pas très bien votre pensée, Benjamin Perret. Ou pensez-vous que, précisément, dans la volonté, dans le propos de Nietzsche, de créer des surhommes, vous voyez là la révolte de l'homme, la révolte luciférienne de l'homme, qui entend précisément destituer Dieu de tous les attributs dont la faiblesse humaine l'a chargé et introniser l'homme comme Dieu à sa place.
Parfait, oui.
Par conséquent, vous définiriez à ce moment-là l'humour noir comme révolte pure et comme révolte pure de l'esprit contre l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire contre Dieu. Patrie, est-ce que vous accepteriez cette vue ? Ou vous paraît-elle trop simple ?
Non, mais je crois que dans l'intention de Benjamin Perret, n'est-ce pas, il s'agissait de montrer, n'est-ce pas, ce qu'il y avait de dérisoire dans une conception telle que celle de Jean Rostand et celle de tous les scientistes concernant le fameux mythe du progrès.
Je ne sais pas très bien si ce détail que Benjamin Perret
obtenu par la science,
que ce détail que Benjamin Perret a extrait d'un contexte un petit peu plus complexe définit véritablement la personnalité et la pensée de Jean Rostand. Jean Rostand, je suppose, a donné la création de sous-hommes comme l'une des possibilités que le développement de la génétique moderne ouvrait à l'homme, c'est tout. Je ne crois pas du tout que Jean Rostand se propose effectivement de créer des sous-hommes. Enfin, ceci, c'est une opinion personnelle.
Oui, il me semble que nous allons alors vers une sorte de meilleur des mondes, et tous les humoristes noirs, en premier lieu Baudelaire, et avant lui Edgar Poe, ont précisément dénoncé, n'est-ce pas, ce mythe du progrès obtenu, n'est-ce pas, par les moyens matériels de la science.
Mais n'oublions pas que Baudelaire a dénoncé avec une très grande vigueur l'ironie et le rire comme étant de Satan, et que Baudelaire était, Dieu sait, un contempteur féroce de Voltaire et de rieurs de sa sorte.
Oui, bien sûr.
Par conséquent, le cas de Baudelaire est peut-être un peu plus complexe, disons, que Baudelaire, comme humoriste noir, est pour le moins ambivalent.
Oui.
Mais Claudine Chonnaz est là, qui rêvasse depuis un moment et qui ne participe pas
à notre
débat.
Mais si, j'écoute très attentivement, mais je suis d'accord avec ce que je crois avoir compris de la pensée de Benjamin Perret, c'est-à-dire qu'essentiellement, à la base de l'humour, il y a une révolte. Révolte à la fois contre la mécanisation, et par conséquent, par cela même, contre l'idée d'un progrès purement matériel, et révolte intellectuelle contre l'absurdité du monde, et donc contre Dieu, créateur hypothétique de ce monde absurde.
Ben, Perret ?
Révolte métaphysique.
Je crois qu'il n'y a pas révolte contre l'absurdité, car l'absurdité du monde. Car pour l'humoriste noir, il n'y a pas absurdité du monde. Pour lui, cette conception est largement dépassée. Il y a une révolte contre la condition humaine.
Considérée comme absurde, non ?
Non, pas considérée comme absurde. Elle n'est pas considérée comme absurde. Elle est simplement intolérable.
La condition humaine est intolérable parce qu'en réalité, ce que paraît être l'homme n'est pas ce qu'il est.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle l'absurdité.
L'homme est un Dieu qui s'ignore, voilà. et qui, à force de s'ignorer, a fini par accepter de n'être plus Dieu. Est-ce cela ?
Je ne pense pas non plus que ce soit cela.
Eh bien, nous sommes là précisément pour essayer de savoir ce que c'est. Et Patrick, qu'en pensez-vous ?
Moi, je voudrais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Baudelaire, ce que disait Amrouche. C'est que Baudelaire, n'est-ce pas, lorsqu'il a exprimé que le rire était satanique, il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que Baudelaire était, selon le mot de Blake, un vrai parti, c'est-à-dire du parti de Satan.
Oui, et l'auteur des fameuses litanies.
Et l'auteur des fameuses litanies. D'autre part, n'est-ce pas, Baudelaire figure explicitement dans l'anthologie de l'humour noir de Breton, précisément avec des textes comme Le mauvais vitrier.
Oui.
Le rire que détestait Baudelaire, c'était précisément le rire autre que celui de l'humour noir.
Oui, c'est-à-dire le rire gay.
Oui, c'était le... Ah, oui. Pas seulement le rire gay. C'était le rire gay, ou bien le rire le rire faussement tragique et sentimental, par exemple le rire cachant, n'est-ce pas, ce pathétique sentimental qui lui faisait considérer Musset comme une canaille.
Eh bien, admettons cela. Mais quelle est alors la caractéristique de ce rire de l'humour noir, ou enfin de l'humour noir lui-même? Quelle est la position de l'humoriste noir par rapport à lui-même et par rapport au monde?
Luciférienne, justement.
Oui, mais c'est qu'il estime qu'il est supérieur, n'est-ce pas, à lui-même, à ce qu'il est en apparence, et supérieur au monde. Et la définition de Léon-Pierre Quint, reprise par Breton, est tout à fait éloquente.
Oui, mais par quoi et comment parvient-il à s'établir dans cette supériorité? Car je ne pense pas que cette supériorité, en dépit des exemples de Lautréamont, par exemple, et de quelques autres, en dépit donc de ces exemples, je ne crois pas qu'on soit établi par nature dans cette supériorité.
Non,
je pense que cette supériorité est découverte, atteinte, conquise, et par conséquent qu'elle se situe au terme d'une aventure, d'une lutte.
Je dirais que l'humoriste noir, n'est-ce pas, c'est celui qui, considérant le monde et se considérant lui-même, découvre qu'il n'est pas que cela et qu'il est beaucoup plus. Et par conséquent, en rit.
Mais c'est ce « par conséquent, en rit » que je ne comprends pas.
À la suite de la découverte en question.
Mais il en rit comment? Pourquoi? Simplement parce que cette découverte produit une sorte de choc hilarant? Est-ce qu'elle a la vertu rigolarde?
Il rit parce qu'il a découvert le peu de sérieux de toutes les choses, n'est-ce pas, qui étaient prises au sérieux.
Mais alors les valeurs de sérieux sont purement et simplement destituées de toute existence?
Sans le moindre doute.
Sans le moindre doute. Et alors, où en sommes-nous à partir de cela? Est-ce que nous sommes dans une perspective de négation absolue de la réalité, de la destinée humaine? À quoi aboutissons-nous?
Claudine Chemesse? Moi, je ne suis plus du tout d'accord avec Benjamin Perret et pas davantage avec Aimé Patry.
Mais je vous en félicite.
Je trouve précisément que ces valeurs de sérieux, n'est-ce pas, ne sont pas du tout destituées en tant que valeurs. Elles sont destituées de toute réalité. Et que c'est précisément de la souffrance que l'homme, éprouvant le besoin de valeurs sérieuses, éprouve à ne pas les trouver dans la réalité, que naît précisément l'humour noir, bien entendu, comme un mécanisme de compensation.
Bien, écoutez, peut-être que nous pourrions nous éclairer nous-mêmes et éclairer aussi nos auditeurs par la lecture d'un texte cité par Breton. Si vous me permettez, je m'en vais vous lire un texte de Xavier Forneret, Un pauvre honteux. Il l'a tiré de sa poche percée, l'a mise sous ses yeux, et l'a bien regardé en disant « malheureux ». Il l'a soufflé de sa bouche humectée. Il avait presque peur d'une horrible pensée qui vint le prendre au cœur. Il l'a mouillé d'une larme gelée qui fondit par hasard. Sa chambre était trouée encore plus qu'un bazar. Il l'a frotté, ne l'a pas réchauffé. À peine il la sentait, car par le froid pincé, elle se retirait. Il l'a pesée comme on pèse une idée en l'appuyant sur l'air. Puis il l'a mesurée avec du fil de fer. Il l'a touchée de sa lèvre ridée. D'un frénétique effroi, elle s'est récriée « Adieu, embrasse-moi !» Il l'a baisée et après l'a croisée sur l'horloge du corps qui rendait mal montée de mat et lourds accords. Il l'a palpée d'une main décidée à la faire mourir. Oui, c'est une bouchée dont on peut se nourrir. Il l'a pliée, il l'a cassée, il l'a placée, il l'a coupée, il l'a lavée, il l'a portée, il l'a grillée, il l'a mangée. Quand il n'était pas grand, on lui avait dit, « Si tu as faim, mange une de tes mains. » Eh bien, voici donc le texte, l'objet, le corps du délit. J'aimerais bien vous inviter maintenant à nous dire dans quelle mesure un texte pareil peut nous apporter une lumière supplémentaire sur le problème que nous essayons de définir. Lequel veut prendre la parole? Je vous vois bien silencieux. Serait-ce donc que ce texte a éteint en vous toute ardeur combative?
Non, pas du tout, naturellement. Moi, il me semble que ça vérifie mon opinion sur la question. C'est-à-dire qu'à l'origine, cet homme n'est pas satisfait de sa main. Il ne fait pas ce qu'il veut de sa main. Elle ne lui rend pas les services en question, enfin, qu'il désire, ou bien elle a froid. Il y a donc une misère à l'origine de cette réaction de l'humour.
Mais il me semble que l'origine de cette réaction s'explique surtout par la petite note de la faim. Quand il n'était pas grand, on lui avait dit « Si tu as faim, mange une de tes mains ». Et que le texte est en réaction, par conséquent, contre ce milieu social qui opprime cette enfance qui perdure sans doute en lui, et qu'alors l'enfant, inadapté et innocent, se révolte. Et par conséquent, la source même de la révolte serait dans l'innocence.
Oui, ben.
D'accord.
Ah oui, ça, nous sommes tous
d'accord.
Eh
bien, moi, je crois que nous sommes tous d'accord, en effet, sur ce point, que la source de la révolte est dans l'innocence. Mais nous pouvons chacun tirer ce texte dans le sens de notre interprétation. Par exemple, en mesure qu'Amrouche le lisait, n'est-ce pas, je songeais à la définition que donnait de l'homme le vieux philosophe grec Anaxagore lorsqu'il disait que l'homme est intelligent parce qu'il a une main. C'est-à-dire que la main semble être pour l'homme ce qu'il y a de plus précieux, n'est-ce pas, ce qu'il définit. Quel siècle la main, disait encore Rimbaud, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, que nous montre, quelle attitude nous montre un tel poème, n'est-ce pas? C'est qu'au contraire, n'est-ce pas, pour Forneret, cette main, n'est-ce pas, qui semble ce qu'il y a de plus précieux pour l'homme, est dévalorisée, puisqu'elle est réduite, n'est-ce pas, au rang d'un aliment, d'une chose tout à fait extérieure, et c'est cela qui nous fait rire, elle est une chose purement matérielle, elle est une chose extérieure, et précisément, si l'on se place dans la perspective, n'est-ce pas, de ce pouvoir de l'esprit qui s'élève au-dessus de toute réalité donnée, la main n'est plus qu'une chose comme les autres. Et c'est de cela qu'on rit, on rit de la main, et on rit, n'est-ce pas, de ce qui paraît constituer normalement, n'est-ce pas, le symbole de la puissance de l'homme, cette puissance d'ailleurs qui, à l'aide de la main, est uniquement matérielle.
Qu'en pensez-vous, Perret? Je serais tenté de penser que ce n'est pas tout à fait suffisant.
Mais je vous en prie, poursuivez,
parce
alors.
Parce que si, en effet, la main est dévalorisée parce qu'elle devient un aliment, elle est en même temps revalorisée par ailleurs.
Oui.
Car, précisément, elle est un aliment. Or, pour que la vie continue, il faut bien s'alimenter.
Oui, j'allais dire à Patrick tout à l'heure que je voyais aussi d'autres principes d'explication. Il y a, par exemple, un principe d'explication purement théologique. Après tout, les chrétiens et la plupart des tenants des religions révélées ou non ont accoutumé depuis fort longtemps, au cours des sacrifices, de manger précisément ce qu'il y a de plus précieux afin de se l'incorporer. De même, je pensais à l'histoire du Prométhée mal enchaîné, dont Breton cite des fragments ici dans son anthologie, où, en définitive, Prométhée mange son aigle et invite les gens à manger leur aigle, l'aigle étant la conscience, et par conséquent, il faut dévorer la conscience pour trouver la liberté. Est-ce cela?
Oui, certainement.
Perret?
Je crois qu'il y a encore autre chose, c'est que l'aliment joue dans les sociétés primitives un rôle de premier ordre. On mange le cœur de l'ennemi le plus vaillant.
Oui.
Et là, il y a ambivalence du côté de la main, puisqu'on la mange. Et néanmoins, c'est une chose tout à fait précieuse. Et si elle est précieuse, c'est précisément pourquoi on la mange.
Oui, mais ce que je ne vois pas ici, c'est en quoi un texte comme celui que je viens de lire est spécifiquement exemplaire de l'humour noir.
S'il est spécifiquement exemplaire de l'humour noir, n'est-ce pas? Parce que précisément, lorsqu'on penserait qu'il faut en pleurer de ce malheureux, n'est-ce pas, qui mange sa main, n'est-ce pas, on s'aperçoit qu'il convient d'en rire.
Mais il convient d'en rire, surtout parce que nous savons bien que ce n'est pas vrai, que nous sommes dans la littérature et que nous sommes par conséquent en pleine fiction. Or, il me semblait que Breton faisait de cette anthologie autre chose qu'un recueil de textes littéraires, et qu'il faisait aussi de l'humour noir autre chose qu'un genre littéraire, mais une véritable manière de penser le monde, et en quelque sorte, il en faisait une bombe, non pas à retardement, mais une bombe destinée à éclater, pour reprendre l'expression liminaire empruntée à Baudelaire, où il s'agit d'explosion, d'émanation, en vue de dégager le comique. Il faut donc faire sauter le monde, et l'homme aussi sans doute.
À commencer par le monde littéraire.
À commencer par le monde littéraire, mais il est touchant d'apprendre que c'est un poète tel que vous qu'il dit, Perret. Claudine Chenet.
Je voulais dire que j'y voyais encore, et toujours, n'est-ce pas, un refus d'accepter la condition humaine telle qu'elle est dans cette simple histoire de main. Oui. Benjamin Perret, avant l'émission, n'est-ce pas, me citait tout à l'heure la fameuse phrase du condamné à mort qui dit le lundi matin, au moment où on le traîne à l'échafaud, « Tiens, ben, décidément, la semaine commence mal. » Eh bien, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas, puisqu'il n'y a rien à faire devant la condamnation humaine, autant en rire. Et j'y vois décidément et toujours un mécanisme de compensation. Devant l'inévitabilité, excusez ce mot affreux, de la misère, autant la dominer, mais c'est une domination très dure, et à mon avis, à base d'une lutte soutenue.
Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire sur la misère, car en effet, la misère existe objectivement, mais je crois qu'elle existe encore plus subjectivement. Je crois que la misère, pour l'homme, n'existe que dans la mesure où il la connaît pour telle. et que, dans ce que disait tout à l'heure Patry, il semblait bien que l'humour noir était une manière non pas de transcender les malheurs de la condition humaine, mais que c'était une façon de la porter dans une perspective radicalement différente et différente au point d'être totalement opposée à toutes les perspectives antérieures.
Vous venez d'entendre Benjamin Perret, Aimé Patry et Claudine Chonnaez qui vous ont parlé de l'humour noir. Notre prochaine émission sera consacrée au philosophe danois Søren Kierkegaard.
Le journal parlé vous a présenté Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 octobre 1950.